Les podcasts du Collège de France, biologie.
J'avais commencé, lors des deux dernières leçons, à traiter de la figuration totémique en avançant que celle-ci donnait à voir les propriétés ontologiques du totémisme en utilisant trois stratégies figuratives principales. La première consiste à associer des figurations de prototypes totémiques en train d'accomplir une action instituante, à les associer avec des figurations de sites qui sont à la fois des cadres et des résultantes de cette action, et à les associer aussi à des figurations d'emblèmes associés aux groupes totémiques issus de ces événements. C'est ce que propose la tradition figurative des Yolngu du nord-est de la Terre d'Arnhem que j'ai examinée lors de l'avant-dernière leçon. À partir de là, deux transformations sont possibles. Soit figurer l'ordre totémique au moyen de l'image de ceux qui l'ont engendré, mais en omettant le résultat de leurs actions, soit au contraire, ne figurer que ce résultat de leurs actions en omettant ceux qui en sont la cause. La première formule correspond aux peintures dites en rayon X des peuples de la partie nord-occidentale de la Terre d'Arnhem, notamment celle des Kumuishku, que j'ai examiné lors de la deuxième leçon. Et la deuxième formule correspond à la tradition iconographique du désert central, à laquelle je consacrerai la leçon d'aujourd'hui. Alors, le désert central, c'est une région gigantesque qui occupe plus de la moitié de l'Australie. C'est une zone aride, dont la partie la plus sèche, qui de ce fait est impropre au pâturage extensif des colons australiens, est restée pendant longtemps à l'écart du front pionnier et, dans certains endroits, jusqu'au milieu du XXe siècle. Les missionnaires et le gouvernement australien ont établi au fil du temps un réseau de communautés aborigènes regroupant des populations qui appartenaient à différents groupes linguistiques, notamment les différents sous-groupes de langue aranda, connus dans la littérature ethnographique en raison des travaux de Spencer et Gillen, parmi les premiers grands travaux de l'ethnographie australienne, mais aussi les Walpiri, les Pintupi et les Pijajanjara, que je mentionne ici, tous ces groupes, parce qu'ils sont assez connus par les travaux ethnographiques qui leur ont été consacrés, auxquels je ferai référence dans le cours de cette leçon. Trois de ces établissements ont acquis une certaine notoriété du fait qu'ils abritent de véritables écoles de peintres. Ce sont Balgo, qu'on voit ici tout à fait en haut, là, Yuendumu, qui est ici, et Papunya, la ville principale de la région étant Alice Springs. Le mouvement maintenant internationalement reconnu de peinture sur toile avec des couleurs acryliques propres aux aborigènes du désert central est en fait né très tardivement dans la communauté donc, de Papunya grâce à un instituteur, un maître d'école, Geoffrey Barden, qui en 1971 avait demandé à des aborigènes de la communauté de peindre une fresque sur le mur de l'école parce qu'il avait observé, il savait pour avoir lu l'ethnographie des peuples du désert central qu'ils avaient une riche iconographie et il leur a demandé donc de peindre cette fresque et voyant le talent avec lequel il l'avait fait, il leur a procuré des toiles et de la peinture et c'est comme ça, et il les a évidemment incités ensuite à peindre, c'est comme ça qu'est né ce mouvement. Mais c'est donc né très tardivement, puisque ça se passe en 1971. Et le succès a néanmoins été très rapide, tant de la part des aborigènes, qui se sont exprimés avec beaucoup d'aisance dans ce nouveau médium, comme de la part du marché international, qui a plébiscité ces peintures. Alors, ces peintures sont le prolongement dans un autre contexte et sur d'autres supports, d'une tradition iconographique à l'évidence très ancienne, puisqu'on en trouve des traces dès les premières descriptions ethnographiques de la fin du XIXe siècle des peuples de cette région, sur laquelle, tradition iconographique, il faut maintenant se pencher. Alors, dire un mot de cette tradition iconographique, je me fonderai dans un premier temps sur un travail remarquable d'une ethnologue nord-américaine, Nancy Munn, qui a publié en 1973 une monographie tout à fait pionnière sur l'iconographie Walbiri, qui s'appelle Walbiri Iconography. 73, c'est donc à une époque où finalement la peinture sur toile était encore tout à fait embryonnaire. Et ce à quoi elle va s'attacher, Nancy Munn, c'est essentiellement aux motifs traditionnels tels qu'ils sont figurés, on va le voir, à la fois sur le sable, dans des dessins sur sable, mais aussi sur les corps et sur certains types d'objets rituels. Les motifs qui sont employés par les Walpiri pour dessiner sur les corps ou sur des objets rituels sont appelés Guruwari. Et comme partout ailleurs en Australie, ces motifs sont réputés avoir été transmis par les êtres du rêve, par ces prototypes des êtres et des choses qui ont façonné le monde à l'époque dite du rêve. Ce terme donc de Guruwari désigne les signes visibles laissés par les êtres du rêve, leurs traces, les éléments du relief résultant de leur métamorphose, les objets cérémoniels dont ils ont prescrit l'usage et bien sûr les motifs tout à fait spécifiques associés à chacun d'entre eux. Mais il désigne en même temps, ce terme désigne en même temps le pouvoir fertilisant, toujours actif, que les êtres du rêve ont laissé dans des sites totémiques afin qu'ils s'incorporent génération après génération dans les humains et les non-humains, composant les classes totémiques que chacun de ces êtres du rêve a instituées. Dans les contextes rituels, les images peuvent être peintes sur le corps, je l'ai dit, ou appliquées sur des ornements éphémères de diverses sortes. Ce sont des coiffes, des panneaux, des croisillons de fils multicolores, ornements qui sont arborés par des danseurs et qui amplifient la puissance de ces motifs, des Guruwari, en multipliant leur nombre et leur modalité d'expression au-delà de la surface des corps. Il s'agit de déplier en quelque sorte la surface des corps pour augmenter le volume dans l'espace occupé par ces motifs. Et cet attirail, parfois spectaculaire, d'images Guruwari répétées sur plusieurs supports, permet ainsi, je cite Nancy Munn, de créer une personnification de l'être du rêve à l'intérieur de laquelle le danseur est occulté. Enfin, les motifs peuvent être dessinés sur le sol ou peints avec du duvet, ou ils peuvent être aussi peints et incisés sur divers types d'objets rituels, notamment les fameux churinga et sur des boucliers cérémoniels. Donc, tout comme chez les Yolngu, l'idée est bien ici que les motifs Guruwari sont investis d'une agence autonome du fait de leur connexion avec les êtres du rêve, et c'est cette force générative qui fait qu'on les utilise au premier chef dans des rites orientés vers la satisfaction socialement sanctionnée de besoins physique et biologique. C'est la croissance des enfants, le maintien de la fertilité du monde, les rites de multiplication des espèces et même l'attraction de partenaires sexuels. Au niveau le plus simple, celui auquel je vais être obligé de me cantonner dans ce bref aperçu, les signes Guruwari permettent d'illustrer graphiquement des histoires. Ce sont des récits étiologiques qui comptent des événements du temps du rêve qui ont abouti aux transformations présentes du monde, à la création de tel ou tel point du relief et à la création des classes totémiques telles qu'elles existent actuellement. On dessine alors sur le sable, en accompagnement du récit, ces motifs Guruwari, puisque, en réalité, on reproduit ce qui est une empreinte laissée sur le sol par divers protagonistes de ces récits étiologiques. Voilà une image du type de dessin que le narrateur fait sur le sable pour accompagner son récit. Alors, on va examiner quelques-uns des codes de ces motifs Guruwari tels qu'ils ont été décrits pour les Walpiri par Nancy Mon. Vous avez en haut les traces de kangourou selon l'allure, c'est-à-dire la ligne centrale, c'est la queue du kangourou qui peut soit... c'est une région aride, désertique, il y a beaucoup de sable, donc la queue traîne dans le sable et crée une ligne entre les deux sauts du kangourou. Vous avez une trace d'opossum en dessous, avec également la queue qui zigzague dans le sable, une trace d'émeu, une trace de serpent, là c'est simplement une ligne ondulée, de dindon sauvage et évidemment un pied d'humain. Là, ce sont des figurations des itinéraires, c'est-à-dire ce sont des lignes de campement qui sont reliées par un trajet. La plus simple, c'est des cercles qui sont reliés par une ligne. Ce sont des gens qui donc campent un endroit, se déplacent, campent un autre endroit, etc. Le deuxième, c'est une croix avec des cercles reliés à partir d'un point central. Ce sont des campements annexes le long d'un trajet principal lorsque des gens font des bivouacs autour d'un campement principal. Le 3, c'est un mouvement en étoile encore par rapport à un site central. Et enfin, le dernier, c'est une pérambulation dans une région. Et vous avez en bas une petite histoire, qui est celle de l'origine du corbeau. Vous remarquerez que la position d'un personnage, vous avez un cercle qui est un feu. Non, c'est un point d'eau, pardon, avec deux chiens. Et tant les chiens que le personnage est figuré par un arc de cercle, c'est-à-dire la trace qu'ils laissent dans le sable en s'asseyant. Il faut noter qu'ils sont nus. Le deuxième dessin, c'est la belle-mère qui était à l'extérieur du cercle, réclame les chiens, l'homme l'entraîne dans le camp. Ils font l'amour, c'est une relation prohibée, c'est un tabou très fort sur les relations sexuelles avec la belle-mère. On reverra cela un peu plus tard d'ailleurs, dans une autre configuration. Et la belle-mère repart en emmenant les chiens. Troisième image, apprenant son inceste, les frères de l'homme s'emparent de lui, donc là ils sont plusieurs autour de lui. Et enfin la dernière image, ils le portent à un feu, le mettent dans le feu, le regardent brûler. Et une fois carbonisé, l'homme devient un corbeau et s'envole. Vous remarquerez que ce qui figure le feu, c'est un cercle. Donc le cercle qui figure dans le premier cas un point d'eau figure dans le dernier cas un feu. Alors on voit que ces motifs tendent vers une pictographie, dans la mesure où ils sont composés de graphèmes de base, combinables entre eux de façon à illustrer un récit. Ils sont organisables de manière séquentielle et ils sont affectés d'un ou de plusieurs, en général c'est plutôt plusieurs, référents constants. Toutefois, et comme le souligne Nancy Mon, ces motifs sont bien figuratifs. Ils sont figuratifs dans la mesure où un élément de ressemblance ou d'iconicité limite ou contraint l'assignation des référents aux signes. Donc, à proprement parler, si vous voulez, il s'agit ici d'une iconicité indicielle ou, d'un indice iconique, dans la mesure où la propriété reconnaissable du prototype, qui est figurée dans le dessin, est la trace qu'il laisse d'une partie de son anatomie. Les pieds, la queue, le postérieur, imprimés sur le sol. Il y a donc tout à la fois une continuité physique entre le signe et le référent, comme dans un indice, et une iconicité minimale, dédoublée, puisque le signe reproduit par les Walbiri dans leur dessin est à la ressemblance fidèle de la trace laissée par l'être dont ce dessin raconte l'histoire, cette trace ressemblant elle-même à un élément distinctif du prototype, c'est-à-dire à la partie de son anatomie qui s'est inscrite en creux ou en négatif dans l'environnement. Cette iconographie possède aussi bien des traits d'une cartographie, ou plutôt d'une route telle celle qui sont laissées par les navigateurs lorsqu'ils tracent une route sur une carte marine. En effet, les dessins ne figurent pas l'ensemble des éléments significatifs d'une portion d'espace, comme c'est le cas dans une carte ordinaire. Ils figurent un itinéraire suivi par un être du rêve et dont les étapes ne sont pas caractérisées, comme c'est le cas dans une carte topographique ordinaire, par la présence de tel ou tel élément, d'un relief préexistant au récit que l'on narre, mais qui deviennent, au contraire, en raison d'un événement survenu à cet être, le lieu de surgissement de cet élément du relief. Donc à chacun des motifs standardisés figurant une empreinte laissée par un être du rêve correspond donc un trait caractéristique de l'environnement. La trace laissée par le kangourou lorsqu'il s'est assis est devenue un point d'eau. La ligne sinueuse tracée par la progression du serpent est devenue le lit d'un ruisseau. Les œufs déposés par le python sont maintenant un amas de rochers arrondis. Les motifs figurent donc des traces, et les événements que ces traces évoquent, et les sites que ces traces sont devenus, et les itinéraires qui relient ces sites. On a pris l'habitude dans la littérature anthropologique sur l'Australie, notamment en anglais, de parler de représentation du paysage à propos de cette iconographie du désert central. Mais il me semble que l'on voit bien, à travers cet exemple des motifs Walbiri, que, sauf à prendre le terme de paysage dans son acception purement géographique d'une structuration à la fois naturelle et culturelle de l'espace physique, le terme paysage n'est pas vraiment idoine ici. Il ne s'agit pas en effet de la figuration de la portion de pays embrassé par la vue à partir d'un point en quoi consiste en général la représentation paysagère, mais il s'agit au contraire de la figuration d'un trajet de morphogénèse éventuellement interconnecté à un autre trajet sans être pour autant ces trajets jamais intégrés dans un espace homogène. Je voudrais, avant de passer aux peintures contemporaines, dire un mot d'un autre support sur lequel ces signes étaient inscrits, un autre support traditionnel, que sont les churinga. Je rappelle que les churinga sont des grandes lames de pierre ou de bois, de forme approximativement ovale, avec des extrémités pointues ou arrondies, souvent gravées de signes, mais aussi parfois dépourvues de tout décor. Chaque churinga figure le corps physique d'un être du rêve déterminé, à la fois par sa matérialité, mais aussi en raison du segment de récit étiologique qui est gravé sur les flancs du Tschuringa, lequel permet d'individualiser l'humain auquel le Tschuringa est associé en assignant cet humain à un événement singulier et à un site particulier au sein de la geste transformatrice et générative du prototype totémique auquel il est associé. Les Tschuringas sont accumulés, entassés dans des abris naturels du site totémique qu'ils incarnent, et ils ne sont sortis que dans des occasions cérémonielles pour les polir, pour les graisser, pour les enduire d'ocre rouge. Alors, les motifs qui figurent sur les... c'est un motif très ancien, puisque ce sont des peintures rupestres qui semblent indiquer, même si il est difficile de les dater, à Rougari, que ces conventions pictographiques étaient utilisées et sont utilisées depuis très longtemps dans le désert central. Donc voilà des Tschuringas classiques, je reprends là une image de Spencer Aguillon, d'un aranda du totem grenouille. Les motifs qui figurent sous les Tschuringas sont donc analogues, on peut le voir, à ceux qui sont employés sur les dessins sur sable, et ils fonctionnent donc comme des pictogrammes permettant de décrire une action d'un être du rêve, c'est-à-dire une petite section d'un tracé ou d'un trajet de morphogénèse. Ce Tschuringa en question est celui donc d'un aranda qui décrit une portion du trajet des grenouilles et donc un site auquel cet homme est plus particulièrement associé. Alors les grands cercles concentriques figurés ici en A représentent trois arbres qui, donc là, et ils sont figurés aussi de l'autre côté, bien sûr, qui marquent le site totémique près de la rivière Hugh. Les lignes droites qui unissent les cercles, et qui sont figurées ici en B, hein, ces grandes lignes verticales, sont des racines, des grosses racines de ces arbres, tandis que les petits cercles concentriques en D représentent des petits arbres de la même espèce avec leurs racines. Enfin, les grenouilles elles-mêmes sont figurées sur cette face-là sous la forme de petits cercles, c'est leur corps, et de lignes qui sont leurs membres. Autre Tschuringa, vous voyez, les mêmes conventions sont appliquées. Alors, Lévi-Strauss remarque avec justesse dans La pensée sauvage que les Tschuringas offrent des analogies avec nos archives. Et ces documents, dit-il, que nous enfouissons dans des coffres ou dans des lieux bien protégés, les archives nationales par exemple, et que nous inspectons à l'occasion afin de réciter, dit-il, les grands mythes dont la contemplation des pages déchirées et jaunies ravive le souvenir. On comprend alors en quoi le Tschuringa peut être vu comme l'incorporation d'un prototype totémique. Le Tschuringa, en effet, c'est l'expression concrète de ce que un principe d'individuation issu d'un être du rêve s'est manifesté dans un humain en particulier, à qui il a donné forme, substance et singularité, avant que, une fois que cet humain sera mort, ce principe ne s'incorpore à nouveau dans un autre humain à qui il va conférer son identité totémique. Donc le Tschuringa, c'est la preuve tangible que le prototype totémique et son descendant sont une seule et même chair. Par ce caractère probatoire, écrit Lévi-Strauss, les Tschuringa ressemblent aussi aux documents d'archives, surtout aux titres de propriété, qui passent par les mains de tous les acquéreurs successifs et qui peuvent être reconstitués en cas de perte ou de destruction. J'ajoute ici entre parenthèses, tout comme l'on peut confectionner un nouveau Tschuringa pour en remplacer un qui a été endommagé. Sauf, ajoute Lévi-Strauss, qu'il s'agit ici non de la détention d'un bien immobilier par un propriétaire, mais d'une personnalité de la détention, d'une personnalité morale et physique par un usufruitier. C'est exactement la bonne définition de ce qu'est la transmission d'une qualité totémique. Et c'est ce qui explique évidemment le caractère sacré des Tschuringa. Le mystère et le secret qui les entoure, l'interdiction qui est faite de les révéler à la vue des non-initiés, car en fait nous tenons à nos archives de la même façon, nous avons vis-à-vis d'elles le même type de respect sacré. Les événements auxquels les archives se rapportent sont attestés de mille façons, indépendamment des archives elles-mêmes. Ils vivent dans nos mémoires, ces événements, ils vivent dans les livres, ils vivent dans les images qu'on en a, dans les tableaux, dans les monuments, dans les illustrations. Et en fait, pour peu qu'elles aient été publiées ou que l'on en ait gardé des copies, les pièces authentiques qui constituent les archives, c'est la définition même de ce qu'elles sont, pourraient toutes en fait disparaître sans que cela n'affecte profondément notre connaissance des faits auxquels ces pièces font référence, ni que cela ne bouleverse outre mesure les situations présentes qui résultent de ces faits. Et pourtant, comme à chaque fois qu'un tel événement se produit, ça s'est produit il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, à Cologne, où les archives ont brûlé, nous ressentirions cette perte lorsqu'elle se produit comme une catastrophe absolument irréparable, portant dommage, portant atteinte au plus profond de notre identité individuelle et collective. Donc notre sacralisation des archives, elle tient à ce que c'est grâce à elles que notre passé acquiert ce que Lévi-Strauss appelle très joliment sa saveur diachronique. Puisque les pièces authentiques conservées dans les archives nous rendent physiquement contemporains d'événements autrement saisis par les traces qu'ils ont laissées bien après eux dans des livres ou dans des institutions, c'est-à-dire étalés dans la synchronie. Il en va de même pour les Tschuringa, selon Lévi-Strauss, je le cite, leur caractère sacré tient à la fonction de signification diachronique qu'ils sont seuls à assurer dans un système qui, parce que classificatoire, et même follement classificatoire, pourrait-on dire, est complètement étalé dans une synchronie qui réussit même à s'assimiler la durée. Donc les Tschuringa, ils attestent physiquement de la période du rêve, dont les effets sont encore perceptibles en tout point, certes, dans les lieux que les êtres du rêve ont façonnés, dans les individus humains et non humains qui en sont l'incorporation actuelle, mais sans que l'on puisse réellement distinguer leur actualisation présente de la période où ils étaient encore en gésine, pourrait-on dire. Par contraste, les Tschuringa sont, comme les archives, et Lévi-Strauss a cette très belle formule, l'être incarné de l'événementialité. Cette interprétation très séduisante de la sacralité des Tschuringa, proposée par Lévi-Strauss, à une époque, la pensée sauvage c'est 1962, où le mouvement artistique du désert central n'avait pas encore pris son essor, pose la question, évidemment, de savoir pourquoi les peintures sur toile contemporaines, lesquelles dépeignent grosso modo exactement les mêmes événements du temps du rêve que ceux qui figurent sur les Tchuringa, et avec les mêmes conventions figuratives, pourquoi ces images ne sont-elles pas tout autant sacrées, mais au contraire exposées, exposables publiquement dans le monde entier? La réponse n'est pas simple, et les aborigènes du désert central eux-mêmes ont eu à ce propos des débats extrêmement vifs dans les premières années du développement de la peinture à l'acrylique. Par exemple, en 1975, un groupe d'hommes, Pidjan Chatjara, venu voir dans un musée de Perth une exposition de peinture réalisée par des Pintupi, exigea, et obtint d'ailleurs, que 44 des 46 toiles exposées soient retournées face contre le mur, car elles dépeignaient des motifs dont ils étaient aussi les propriétaires, puisqu'ils avaient en commun, avec les Pintupi, un trajet d'êtres du rêve et qu'ils n'avaient pas donné leur permission pour que ce trajet, ce segment de trajet d'êtres du rêve, soit reproduit en peinture. Il semble pourtant, en dépit d'événements de ce type-là qui sont maintenant beaucoup moins fréquents, que la différence majeure entre les Tchuringa et les toiles soit que les Tchuringa sont activés dans un contexte rituel par des gens et pour des gens qui, issus tous d'un même site totémique, connaissent la signification de chacun des motifs se référant à leur genèse commune et pour qui, en conséquence, la fonction d'archive de ces objets, la fonction d'être incarné de l'événementialité, pour reprendre la belle formule de Lévi-Strauss, est toujours opérante et toujours efficace. Tandis que les tableaux sur toile sont destinés à être vus, je dirais de façon presque exclusive, par des non-aborigènes, qui sont réputés, le plus souvent à juste titre, de rien savoir du lien indiciel qui relie telle ou telle image à tel ou tel aborigène. Et il se pose d'ailleurs le problème que j'avais évoqué déjà à propos des Yolngu, que la demande du marché mondial pour des explications des peintures produites par les aborigènes du désert central commence à aller à l'encontre de ce désir de ne pas révéler à des gens qui ne le connaissent pas les détails ou les interprétations que ces toiles proposent de tel ou tel segment d'un trajet de l'être du rêve. Donc on peut dire qu'en ce sens, la circulation des toiles du désert central dans le marché mondial n'affecte pas vraiment la fonction probatoire des Tchuringa, de même que la circulation de plus en plus commune, pour prendre une analogie, sur le web, des facsimilés de nos archives à nous, ne remet pas en cause le caractère probatoire des actes authentiques dont ces facsimilés sont la reproduction transitoire. Pour aliéner ce que Annette Weiner a appelé des possessions inaliénables, c'est le titre de son livre, Inalienable Possessions, c'est-à-dire ces objets qui, elle ne faisait pas référence à l'Australie, mais à la Mélanésie, ces objets qui ne doivent pas circuler, parce que, tels les Tchuringa, tels nos constitutions, tels les ancêtres ou les actes de propriété, ils attestent de la légitimité d'une condition présente par le recours à un événement passé, il faut, bien évidemment, non seulement s'en déposséder ou en être dépossédé de façon irrémédiable et sans que rien de matériel ne subsiste de ce qu'ils ont signifié, il faut encore que la capacité de ces objets à fonder une légitimité ou une identité soit détournée et maîtrisée en connaissance de cause par d'autres que ceux à qui ces dispositions profitaient auparavant. Il est improbable que les peintures sur toile puissent réaliser cela, et c'est pourquoi elles peuvent circuler dans le marché mondial pour le plus grand profit de ceux qui les font. Je voudrais maintenant passer aux peintures sur toile, précisément, pour voir comment les peintures sur toile contemporaines sont un prolongement de la tradition iconographique qui auparavant s'exprimait soit sur les churinga, soit dans les dessins sur sable, soit dans les peintures corporelles. Et je vais prendre pour cela une série de tableaux peints par un artiste assez réputé qui s'appelle Wuta Changala. Alors certains de ces tableaux, je vous les montrerai, d'autres existent seulement sous la forme de croquis faits par Fred Myers, un anthropologue des États-Unis, qui a suivi plus particulièrement la carrière de Wuta Changala lorsqu'il était à Papunya. C'est un pintupi. Le livre de Fred Myers, c'est Painting Culture, mais il a écrit aussi de nombreux articles sur cet artiste. La série des tableaux de Wuta Changala figure un segment du pays qui est propre à ce peintre parce qu'il a été créé par l'être du rêve dont ce peintre dépend. Et il s'agit donc d'étapes sur le trajet du rêve d'un personnage qui s'appelle Vieil Homme. C'est la traduction de Yina, et c'est un thème favori de ce peintre. Le début du voyage commence dans un endroit qui s'appelle Kampurarnga. Je m'excuse pour les noms qui ne sont pas toujours très faciles à prononcer, dans les Henty Hills. Et Vieil Homme voyage vers l'ouest pour faire étape à Tsukanina. Nous sommes donc ici à Tsukanina, c'est une colline dont la forme tout à fait distinctive est visible à l'arrière-plan ici de la photo qui correspond à une peinture faite par Wuta Changala dont Fred Myers reproduit ici le croquis. Alors, sur la peinture, on voit la grande colline de la photo au centre. Hein, c'est la zone 1, ici. C'est le lieu où Vieil Homme s'est allongé. Et la zone 2 indique l'endroit où Vieil Homme a déféqué. Il a déféqué un objet d'ensorcellement extrêmement puissant. Et les deux marques ici sont les deux traces de ses pieds lorsqu'il s'est accroupi pour déféquer. Le grand carré central autour du cercle est, en fait, selon Wuta Changala, couvert des étrons de Vieil Homme. Et le cercle indiqué en 4, ici donc, est la tête du Vieil Homme. Et ici est le trajet qu'il a suivi. Et les autres cercles représentent des trous d'eau qui ponctuent les ouèdes qui descendent comme ça de la colline. Je parle d'ouèdes parce que ce sont des cours d'eau temporaires qui se gonflent au moment de la saison des pluies. Depuis ce site de Tsukanina, Vieil Homme a continué sa route vers l'ouest, vers Ngurapalangunya, qui a aussi été dépeint par Wuta Changala. C'est une zone qui comporte trois sites distincts. Le site marqué en 1 au centre est une grotte, c'est ici, hein, appelée Tsunta Murtunya, dont le nom est dérivé d'un être du rêve appelé Tsunta Murtu. Et c'est aussi l'endroit d'où procède le totem de conception du peintre, c'est-à-dire que sa mère, en allant à cet endroit, a été ensemencée, si l'on peut dire, par la semence d'individuation dont il est lui-même le produit. Chuntamurtu s'enfuit dans la grotte parce qu'il va s'y réfugier, parce qu'il est effrayé par vieil homme qui passait par là, qui était chargé d'objets de sorcellerie. Il s'enfuit dans la grotte, donc Chuntamurtu, et il en éjecte les objets sacrés qui s'y trouvaient pour se faire une place. Ces objets sont devenus la colline Witalinga, qui se trouve donc tout en haut, là-haut. Et des grandes cuvettes d'argile, qui sont ces cuvettes-là, qui sont, qui furent créées par les danses de deux femmes, êtres du rêve, qui s'appellent Kunga et Kunchara. Après la pluie, des plantes appelées Munjilpa éclosent dans ces cuvettes d'argile, plantes dont les graines ont été mangées sont mangées par les Pintupi sous forme de galettes, et en particulier ont été mangées par la mère du peintre qui, ce faisant, a incorporé la semence d'individuation du site totémique. Quittant ce lieu, vieil homme alla dans un autre site qui s'appelle Yumarinya, qui est un point d'eau, dont on voit ici la photographie, avec une forme caractéristique en X. Un lieu qu'il a peint à plusieurs reprises. Ça, c'est une peinture de 1979 qui représente avec fidélité la forme générale du point d'eau, résultant de la forme du corps du vieil homme lorsqu'il se coucha sur le sol. Le cercle du centre représente son nombril, ici. Le cercle du bas représente ici sa tête, et le cercle du haut est son bas-ventre recouvert par un tablier pubien. La ligne oblique qui part à gauche, celle-ci, figure ses jambes, tandis que la ligne qui descend vers le bas ici représente sa ceinture, laquelle a laissé une marque colorée, une bande colorée rouge à l'intérieur du trou d'eau. Enfin, la ligne qui descend vers le bas à droite figure la lance de vieil homme et aussi les motifs qu'il portait sur les flancs. De cet endroit, vieil homme se leva pendant la nuit pour copuler avec sa belle-mère. Encore une affaire de copulation avec la belle-mère, qui, comme je l'ai déjà dit, est une grave infraction aux règles de l'alliance et de la bienséance. C'est cet acte qui a donné son nom au lieu, puisque Yumarinya signifie le lieu de la belle-mère. Wuta Changala, le peintre, a peint de nombreux tableaux de ce site de Yumarinya, un privilège dont il jouit, la capacité de le peindre, du fait que, on l'a vu, sa mère l'a conçu non loin de là, et que ce site fait donc partie de son pays, ce qu'on appelle le pays Ngura en Pintupi. Mais il forme en fait la base de son identification au lieu dont les êtres du rêve dont il dépeint les traces sont à l'origine. Donc voilà une autre peinture de Yumarinya qui est antérieure à la précédente, dans laquelle Wuta Changala a figuré avec plus de liberté le trou d'eau en forme de X. Et on y reconnaît pourtant les traits structurels principaux de la peinture précédente, à condition évidemment que l'on sache qu'il s'agit de cet endroit. Et le tablier pubien, par exemple, du vieil homme, qui était figuré de façon complètement différente dans la peinture précédente, est ici figuré par le croissant noir dans la partie supérieure gauche de la toile. Autre peinture du même site, qui est ici, malheureusement, n'a pas le tableau, c'est réduit à un croquis qu'en a pris Fred Myers. Donc ici encore, ça c'est une peinture de 1981, et elle a été réalisée peu de temps après la visite du peintre à Yumari, c'est-à-dire au site qu'il dépeint. Alors que le peintre, Wuta Wuta Jangala, et d'autres Pintupi résidant à Papunya. Je rappelle que Papunya, c'est une agglomération, un melting pot dans lequel il y a des aborigènes de différents groupes ethniques, si vous voulez, ou linguistiques, en fait, planifiaient leur retour dans leur territoire traditionnel, et plus particulièrement, dans le cas de Wuta Wuta Jangala, à Yumari, son site totémique. Et l'iconographie de cette peinture, elle est donc marquée par ces circonstances. Wuta Wuta Jangala revient constamment lorsqu'il peint sur le fait que, à cette époque notamment, que les ossements de ses parents, à savoir son père et le frère de sa mère, étaient enterrés là. Et la forme en X du point d'eau est dans cette peinture toujours nettement visible. C'est le schème visuel central de ce site qui fait coïncider la forme physique du site et la forme physique du corps de vieil homme. La tête est en 1, tout en haut, hein, couverte en fait d'une parure. Le pénis est en 4, ici. Et parmi les cercles qui l'entourent et qui figurent des petites dépressions, vous avez vu que le trou d'eau, c'est en fait une dépression, une grande dépression en X dans une plaque rocheuse. Là, ce sont des petites dépressions dans la plaque rocheuse, et parmi ces petites dépressions, il y a l'une représente la vulve de la belle-mère. Alors, cette présence de plus en plus massive au fil des peintures, du corps métamorphosé, de l'être du rêve, au dépens de toute référence à d'autres éléments de l'environnement proche, peut être interprétée comme, finalement, la prise de conscience de plus en plus aiguë par le peintre, Wuta Wuta Jangala, à mesure qu'il vieillit, du rapport d'identification profond qui le relie à un lieu et surtout à un prototype totémique. Encore une peinture, celle-là est assez connue, elle diffère, vous voyez, des autres, et elle a pourtant été faite quelques semaines après la précédente, et Wuta Wuta Jangala a peint ici un tableau de Yumari qui est très grand, il fait 2,45 m sur 3,60 m, et il est, comme vous pouvez le voir, visuellement très spectaculaire. Et il fait d'ailleurs à présent partie des collections du National Museum of Australia. Il s'agit en réalité d'une synthèse iconographique qui combine l'histoire de vieil homme et celle de Chuntamurtu, le petit être du rêve qui s'est réfugié dans la grotte parce qu'il était effrayé par vieil homme. Et selon Fred Myers, qui était présent lorsque le tableau fut peint, la grande figure centrale, donc celle-ci, là, c'est Chuntamurtu, le petit être qui se réfugie dans la grotte. La forme ondulante en bas, ici, c'est un être du rêve, c'est un serpent, Liru, qui a voyagé vers l'ouest depuis le mont Wedge. Et vieil homme, en fait, n'est figuré ici que sous la forme de son pénis, ici. tandis que les cercles de part et d'autre du serpent représentent des femmes kanapunta, qui sont aussi des êtres du rêve. Quant à la figure centrale, on peut l'interpréter comme le peintre lui-même, Uta Uta Changala, sous les espèces de l'être du rêve, Chuntamurtu, lequel est aussi son totem de conception, installé au cœur de son pays. C'est donc une sorte de signature ou d'autoportrait par l'intermédiaire de l'être du rêve avec lequel le peintre est associé ou dont il procède. Et les cercles autour de la figure représentent les rochers qui sont situés autour de la grotte, donc tous ces cercles ici, où Chuntamurtu s'est réfugié. Bref, finalement, cette peinture, elle rend manifeste un va-et-vient permanent entre le pays natal, vraiment au sens fort du terme, les êtres du rêve qui l'ont créé, et les incorporations humaines de ces prototypes, dont, évidemment, l'artiste au premier chef. Alors, après cette série de peintures de Yumari, on peut revenir au voyage de vieil homme, qui ne s'interrompt pas sur ce site, et qui a été encore peint par Uta Uta Changala sur un autre médium, là. Ça, c'est une peinture d'un site qui s'appelle Tilirangaranya. C'est une peinture qui a été effectuée par Uta Uta Changala sur un plat en bois qui représente ce site, juste à côté du trou d'eau de Yumari, qu'on vient de voir, de Yumari, et qui figure un groupe de rochers laissés par vieil homme. Alors, les rochers, on les voit bien en bas dans la photo, hein, il y a un chaos rocheux, là. Rochers qui ont été laissés par vieil homme. Donc, le vieil homme, il est là. Il figure. Lorsqu'il a allumé un feu au matin, ici, pour se réchauffer, après avoir copulé avec sa belle-mère. Et la ligne 3, ici, ou les lignes 3, figure un motif que le vieil homme portait sur les cuisses, tandis que les lignes ondulées verticales, ici, figurent le déplacement d'air provoqué par ses testicules lorsqu'elles se déplacent par elles-mêmes. Comme vous avez vu, constater les aborigènes, les plaisanteries scatologiques et les plaisanteries sexuelles. Dernière étape, enfin en tout cas reconstituable, peinte par Uta Uta Changala, c'est une autre peinture sur un plat de bois qui figure encore un épisode du voyage de vieil homme. Les lignes ondulées ici figurent le vent et les taches jaunes figurent des fourmis qui mordaient le pénis de vieil homme en punition pour avoir copulé avec sa belle-mère. Donc cette image, qui est en dépit des apparences tout à fait iconique, mais évidemment il faut le savoir, dépeint le vent provoqué à Yerpa Langunia par le pénis de vieil homme battant violemment dans l'air. Donc, on voit ici la façon dont les codes iconographiques traditionnels ont été utilisés avec beaucoup d'invention et de créativité, mais sans véritablement être détournés dans une peinture très originale. Je voudrais dire un mot sur l'évolution des conventions figuratives, notamment à Papunya, qui est un centre de création extrêmement actif. Une caractéristique des peintures faites dans cette ville bourgade de Papunya est que ces peintures peuvent intégrer de façon marginale des conventions figuratives européennes, sauf finalement que cela ne remette en cause le langage iconographique traditionnel. On en a ici deux exemples. L'image de gauche figure une perche. Hein, c'est ça. C'est d'ailleurs un tableau que Clifford Possum Chapaljari a peint à plusieurs reprises, avec les mêmes conventions d'ailleurs. Donc on a ici une perche, et au sommet de laquelle est enroulé un cordonnet fait de cheveux, et c'est un piège, un envoûtement en quelque sorte, pour gagner, une magie d'amour, pour gagner le cœur d'une jeune fille. Et la perche semble se détacher de la peinture dans une perspective en plongée. Ça, c'est tout à fait original. On ne voit pas ça dans les autres peintures. C'est donc une innovation. Qui est la perspective en plongée est saisissante puisqu'elle tranche sur les conventions qui sont strictement bidimensionnelles de l'iconographie du désert central. Cependant, l'homme qui est assis au pied de la perche, donc on a ici la trace classique, hein, l'arc de cercle qui désigne un personnage assis, est figuré de façon classique, de même que ces mouvements de danse autour de la perche. Alors, ce n'est pas très clair ici, mais vous voyez ici, on a des traces de pas qui sont les mouvements de danse que cet homme accomplit ici aussi, autour de la perche, pour faire fonctionner son envoûtement. L'image de droite combine également les deux types de perspectives. On a de l'eau qui coule d'un bassin à un autre le long du lit d'un oued, vu donc en haut comme, comme une vue aérienne, tandis que des traces de pas, donc ici c'est l'eau qui coule le long d'un oued, et puis on a des traces de pas qui sont visibles à la bordure de l'oued. On a aussi des traces de pas en bordure ici, dans un bosquet d'arbres, et ces traces de pas, ce sont des traces de pas d'opossums. Seul trait qui détonne, c'est que certains arbres sont représentés avec le tronc, c'est-à-dire dans une perspective en plongée, dans une sorte de raccourci saisissant, et viennent détonner, si vous voulez, par rapport aux conventions de la peinture en général. Une autre peinture de Clifford Possum Chapaljari présente des innovations d'un autre genre, non seulement par l'usage de figurations réalistes, mais aussi par l'extrême condensation sémantique dont elle témoigne et par le retour paradoxal à une simplicité pictographique, en quelque sorte, en partie débarrassée, et même très largement débarrassée, de préoccupations esthétiques. Bref, c'est un schème figuratif qui, me semble-t-il, assimile cette image aux anciens dessins sur sable. En fait, il s'agit de la juxtaposition de cinq trajets d'êtres du rêve qui se rejoignent en un lieu géographique. La ligne verticale qui traverse la toile de haut en bas et donc celle-ci, hein, et la piste du rêve de la fourmi miel, et les quatre cercles sur la piste étant les sites du rêve de la fourmi, hein, celle-ci, dont le dernier, d'ailleurs, est une ville, maintenant, une de ces bourgades de regroupement, la bourgade de Yuendumu. Les traces de pas sur la droite de la toile qui descendent du haut en bas sont ceux de la piste de l'homme Dingo. Hein, c'est ça. Les traces de pas se déplaçant de la droite vers la gauche au milieu de la toile sont celles de deux hommes venant de Arakulaja. Donc c'est ça. Les traces de pas juste en dessous sont celles de la piste du rêve du Wallaby. C'est ça. Et les traces de pas en dessous de celle-ci sont celles de la femme Nungarayi, qui est un être du rêve. C'est ça. Et on a une figuration réaliste qui est un squelette, le corps d'un homme qui était poursuivi et qui a été tué. Donc il s'agit, dans le cas présent, d'une cartographie d'un pays où sont concentrées plusieurs pistes et où un événement singulier s'est déroulé, le caractère hors du commun de la peinture venant surtout de la figuration réaliste du squelette qui déroge à la convention voulant que les êtres animés ou jadis animés sont figurés déjà objectivés dans un trait du paysage et non comme des corps reconnaissables, identifiables avec des contours. Donc, très brièvement pour conclure, je vois que l'heure tourne, l'iconographie du désert central donne à voir un mouvement sur une surface analogue à celui accompli par un être du rêve, un mouvement qui restitue les conditions originaires de mise en ordre du monde, mais qui n'influe pas sur ce monde, dont la structuration immuable est déjà donnée depuis longtemps. Dans cette tradition, comme dans la tradition de la terre d'Arnhem que nous avons vue au cours des deux dernières leçons, il s'agit de rendre présente une structure accomplie et que plus rien ne peut modifier. Soit en reproduisant les moments clés de la genèse de cette structure et les événements qui ont permis qu'elle s'inscrive sur la surface de la Terre, soit en figurant l'arrangement interne de ceux qui ont engendré cette structure en offrant leur anatomie en modèle de l'organisation totémique. Les deux pôles de cette alternative sont représentés par la tradition iconographique du désert central d'une part et par celle de la partie occidentale de la terre d'Arnhem d'autre part. Dans le premier cas, comme dans l'iconographie Warlbirri ou Pintupi, on a un fond sans figure, des traces d'action dont les actants ont disparu. Dans l'autre, comme dans l'iconographie des Kunwinchku, on a des figures sans fond, des actants, désormais inactifs, représentés à l'époque où ils englobaient encore en eux ce qui fait la diversité des existants. Il s'agit là de deux stratégies contrastées pour figurer l'ordre totémique, soit représenter l'ordre incorporé dans les lieux, les agents de la genèse n'existant plus que dans les empreintes au moyen desquelles ils ont fait advenir le monde présent, soit représenter l'ordre incorporé dans des êtres, ceci étant vu comme les enveloppes contenant chacune en puissance une partie de la structure du monde. Et les Yongu de la partie orientale de la terre d'Arnhem, ce que nous avons examiné en premier dans cette enquête sur le totémisme, opèrent une synthèse de ces deux formes, puisqu'ils donnent à voir comment l'ordre totémique s'actualise par l'événement, en figurant des récits étiologiques où sont présentés à la fois des prototypes totémiques et des traces de leurs actions. Pour paraphraser donc la formule de Howard Murphy, que j'avais citée lors d'une leçon précédente, une peinture Yongu, c'est du comportement ancestral emmagasiné. On pourrait dire c'est du comportement ancestral en train de s'actualiser dans une structure. Voilà, je vais arrêter ici, parce que je vois que l'heure est largement passée. Et je ferai une petite synthèse sur le totémisme lors de la prochaine leçon. Et je commencerai l'examen de la figuration naturaliste que j'aborderai dans un survol un peu vertigineux, puisque en fait il s'agit quand même de 4 siècles ou 5 siècles de tradition artistique occidentale. Donc vous me serez indulgent pour les raccourcis que je serai parfois amené à faire. Comme il y a les vacances de Pâques, donc des vacances universitaires, le cours va s'interrompre pendant 2 semaines et reprendra à la fin du mois d'avril. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.